Bonjour et bienvenue sur mon podcast Place aux jeunes, un podcast qui donne la parole aux jeunes sur divers sujets sociétaux. Merci d'être présente, Mila.
Bonjour.
Alors, tout d'abord, si tu pouvais te présenter en quelques mots, donner ton âge, tes études et en quelle année tu es.
Alors moi, c'est Mila, du coup j'ai 20 ans, je suis en études d'infirmière à Rennes et je suis en deuxième année. Et les études d'infirmière, c'est sur 3 ans.
D'accord. Qu'est-ce qui t'a motivée à choisir ces études ?
Alors, j'ai toujours été attirée par le domaine médical et surtout par le contact humain et aider les autres, les soulager comme je pouvais. J'ai d'abord tenté de faire une première année de médecine que j'ai pas eue et du coup, je me suis réorientée vers les études d'infirmière. Et moi, j'ai toujours aimé les journées qui se ressemblent pas. J'ai toujours aimé le fait d'être dans une dynamique et de pas être assise à un bureau. Donc, c'est des études qui me conviennent totalement.
Bah, très bien. Tu l'as dit, tu es en deuxième année. Comment se déroule ta formation ?
Alors, les études d'infirmière, c'est des études où on est autant en cours qu'en stage. Donc, en première année, on a 3 stages de 5 semaines. Et en deuxième année, on a 2 stages de 10 semaines. Et en troisième année, je crois qu'on a 3 stages de 10 semaines. Donc, on est beaucoup en stage. Et donc, on alterne entre cours et stages pour apprendre, mettre en application la théorie qu'on a appris dans les cours pendant les stages.
Ok. Quels sont les aspects que tu apprécies le plus dans cette formation, justement ?
Eh bah, moi, j'apprécie beaucoup pouvoir mettre en application les choses que j'apprends en cours, tous les médicaments, tous les gestes qu'on apprend en cours en théorie et pouvoir les appliquer réellement sur le terrain, en stage, sur des vrais patients.
Ok, très bien. Comment tu envisages ta future carrière ? On peut dire, tu es en deuxième année, tu finis en troisième. Y a-t-il des spécialités particulières en infirmerie ?
Alors, les études d'infirmière, du coup, c'est bien sur 3 ans. Et depuis quelques années, ils ont développé des formations en plus. Du coup, on peut faire IPA, c'est infirmière en pratique avancée. Donc, c'est 2 ans en plus pour spécialiser dans un domaine, donc la cardiologie, la pneumologie, enfin, voilà. Sinon, il y a IAD, c'est infirmière anesthésiste, et IBOD, c'est infirmière de bloc opératoire. Moi, je pense que je partirais plutôt sur infirmière anesthésiste. Ça permet de pouvoir faire certains actes médicaux qu'on ne peut pas faire en tant que juste infirmière. Et comme ça, moi, j'ai toujours voulu travailler dans l'urgence, donc travailler au SMUR ou chez les pompiers. Donc, ça me permettrait de pouvoir intégrer ces métiers, ces domaines de la santé plus facilement.
Ok, peut-être question que tout le monde se pose, je ne sais pas. Mais une fois que tu as acquis cette spécialité, est-ce que... t'es obligé de bosser dans un service particulier tout le temps ou est-ce que tu peux quand même être avec toutes les autres infirmières et avoir cette option en plus quoi ?
Eh ben, on a la chance dans le métier d'infirmière, c'est qu'il en manque partout. Et donc, en fait, on trouvera toujours du travail dans tous les services. Donc non, ça ne restreint pas juste à rester dans un type de service. C'est ça qui est bien.
Maintenant, j'ai envie de voir avec toi ce que c'est globalement le métier d'infirmière et que tout le monde puisse se rendre compte de ce que foncièrement fait une infirmière tous les jours. Est-ce que tu pourrais nous donner un cas pratique de ton quotidien ? Qu'est-ce que tu fais sur une journée type ?
Et après, ça dépend beaucoup du lieu d'exercice, mais là, mon dernier stage, du coup, j'étais en neurochirurgie, en soins intensifs de neurochirurgie. Et donc, c'est un service où il faut régulièrement aller voir les patients parce que les patients sont critiques quand même. Et donc, il y a toute la partie administration de traitement, donc surveiller la prise des traitements, les effets indésirables, les effets secondaires, tout ça. Il y a aussi tous les soins techniques, la prise de sang, les perfusions, mais il y en a plein d'autres. Et puis, il y a beaucoup d'accompagnement des familles et des patients en eux-mêmes, vers aussi, malheureusement, parfois les fins de vie, les décès, ça arrive. Et beaucoup de coordination, de transmission avec les médecins, les différents... les différents corps de métier du médical.
Très bien. Alors, on va en venir justement de l'exercice de l'infirmerie, des infirmières, infirmiers et du médecin. Mais d'abord, je voudrais savoir, justement, là, tu as plutôt parlé des cas pratiques en l'hôpital, mais il y a aussi des infirmières qui sont dans leur cabinet en indépendant, on va dire. Est-ce que ça change beaucoup de ce qu'ils font au quotidien par rapport à vous ?
Et moi, je trouve que chaque secteur, chaque domaine a sa particularité. J'ai fait un stage du coup en libéral aussi avec les infirmières du coup qui vont à domicile. Elles doivent un peu plus se débrouiller parce que elles sont toutes seules et donc elles peuvent appeler les médecins, mais c'est vraiment s'il se passe quelque chose. Donc c'est vraiment différent, je trouve, de l'hôpital.
D'accord. Mais les pratiques sont les mêmes, les prises de sang dont tu parlais, le soin, etc. Ouais. Très bien. Et justement, Est-ce que, enfin, où est-ce que les tâches des infirmières finissent, par exemple à l'hôpital, si on est dans un contexte d'hôpital, à partir de quand le métier de médecin commence et vous, vous arrêtez d'agir, finalement ?
Eh bah, bien, on pense souvent que l'infirmière elle fait juste ce que le médecin lui dit, mais maintenant, les études d'infirmière sont quand même beaucoup plus poussées sur le raisonnement clinique et la réflexion. Donc une infirmière, maintenant, elle n'administre pas juste des traitements comme ça, elle réfléchit aussi derrière à pourquoi on administre ces traitements, pourquoi, qu'est-ce que je peux surveiller, qu'est-ce qui peut se passer avec ces traitements. Donc, je sais pas trop. Le médecin est complémentaire, enfin, c'est vraiment des travaux complémentaires parce que le médecin, il passe juste des fois une matinée dans le service, enfin, il passe une fois voir chaque patient, alors que l'infirmière, elle est là toute la matinée. Et donc, si l'infirmière a remarqué quelque chose, le médecin ne va pas l'avoir remarqué en 5 minutes dans la chambre. Donc, c'est vraiment un travail de coordination entre les deux corps de métier. Et voilà.
Et pour davantage mettre un petit coup de projecteur là, sur le métier de médecin, pour comprendre hein, foncièrement la dualité de vos métiers et vos complémentarités, qu'est-ce que le médecin a seul le droit de faire à l'hôpital ? Par exemple, des fois, bah, on peut être hospitalisé, on se dit mince, c'est du ressort du médecin, de l'infirmière, on est un peu perdu, comment ça se passe ?
Et bah, normalement, enfin, voilà, le médecin peut prescrire, enfin, le médecin prescrit, c'est lui qui fait les prescriptions du coup, des médicaments, des examens médicaux, c'est lui qui met les diagnostics sur les maladies. Après, là, les textes changent, donc les infirmières seraient peut-être à même de pouvoir prescrire certains traitements, mais avec des certaines conditions, je pense que c'est des renouvellements d'ordonnances, des choses comme ça. Mais voilà, tout ce qui est prescription médicale, ça relève normalement essentiellement du rôle du médecin.
D'accord, très bien. Maintenant, on va plus en parler des enjeux et de l'avenir du métier d'infirmière pour toi. Si je te donne une baguette magique, voilà, je te la donne. Selon toi, quels sont les principaux défis auxquels ce métier peut faire face dans les avenirs, bah, déjà aujourd'hui, et puis après, on confrontera avec l'évolution plus tard.
Et bah, je pense que dans la globalité, le milieu de la santé est malheureusement en manque de personnel. Ça se ressent beaucoup dans les services. Et que mine de rien, c'est un métier avec des conditions de travail difficiles, avec des horaires décalés, et puis une charge émotionnelle aussi assez importante. Et c'est un métier quand même qui manque de reconnaissance, je trouve.
D'accord. Est-ce que, par exemple, tu as des exemples sur le fait voilà, de la charge de travail, les horaires décalés ? Est-ce que tu as des exemples pour illustrer tes propos ?
Et bah sur la charge de travail et les horaires décalés, globalement, une infirmière, elle travaille sur le CHU, en tout cas de Rennes, soit en 12 heures, donc de 7h à 19h, ou alors en 7h30. Et du coup, c'est des matins ou des après-midi, donc du 6h40, 13h30 et du 13h30, 21h30. Donc, c'est vraiment des horaires très décalés. Et puis, avec le manque de personnel, en fait, les infirmières, les cadres de service viennent le jour leur dire « Est-ce que demain, vous pouvez revenir ? Il manque tant de postes. » Et donc, voilà, c'est des métiers où on ne compte pas forcément ses heures. Quand il se passe quelque chose dans le service, on ne se dit pas « Il est 21h, c'est l'heure de partir. » On reste et on continue à travailler. Donc voilà, c'est pas un travail simple.
Bah, c'est intéressant ce que tu dis, et puis ça amène à la réflexion sur des questions d'éthique, tout simplement quand une personne fait plus d'heures à la semaine, de manière hebdomadaire, plus que ce qu'elle devrait faire, même déjà physiquement ça peut altérer, mais mentalement aussi, on s'adresse quand même à des personnes qui sont proches de personnes malades, qui ont besoin de soins. Voilà, tu étais en soins intensifs dans le secteur, dans le service neuro. Voilà, on ne peut pas se permettre de faire des erreurs d'accompagnement, de soins, etc. Ça peut, en tout cas, poser des questions d'éthique. On n'y répondra pas aujourd'hui, peut-être plus tard. Et maintenant, comment imagines-tu l'avenir de la profession d'infirmière, là, dans l'avenir, si je te donne 10-15 ans ?
Enfin, les temps changent, la formation, elle évolue. Donc, déjà, c'est ce que j'ai dit au début, il y a de plus en plus de formations après les 3 ans d'infirmière. Donc, ce que je disais, IPA, IAD et IBOD, ça permet de, du coup, avoir des infirmières qui sont plus spécialisées, qui puissent faire plus d'actes qu'une infirmière. Il y a aussi tout ce qui est la relation humaine, le lien humain. C'est un métier qui a besoin de liens, il faut faire attention avec la digitalisation et avec, avec les écrans, on passe de plus en plus, enfin l'infirmière passe de plus en plus de temps sur les dossiers à remplir de l'administratif. Donc il faut faire attention à ne pas perdre ce côté humain et ce côté accompagnement, comme tu disais.
Ouais, très bien. Comment tu perçois l'évolution du rôle de l'infirmière, mais là, dans le système global de santé ?
Eh ben pour moi, c'est... Enfin, on a tous un... Tous les métiers de la santé sont indispensables. Un service ne pourrait pas tourner sans les aides-soignantes aussi. Un service ne pourrait pas tourner sans les infirmières. On a tous notre rôle à jouer dans le fonctionnement d'un service.
D'accord, donc plus tard, l'infirmière, ça sera la même chose en combinaison par petites briques complémentaires avec les médecins, les aides-soignantes, etc. dans chaque service.
Pour moi, oui. Tout le monde doit travailler ensemble et ça doit rester comme ça.
Très bien. Et selon toi, quelle est l'importance de la relation humaine dans le métier d'infirmière ? Je pense que c'est quelque chose, c'est un gros point quand même. Est-ce que tu peux nous dire voilà, ce que tu en penses et si tu as des exemples aussi à un moment donné
Pour moi, c'est hyper... Enfin, voilà, c'est des études où il faut être à l'aise avec la parole, le discours, prendre en soin des personnes, pouvoir les accompagner. Comme je disais, des fois, on les accompagne dans des choses heureuses et parfois malheureuses, hein, dans des fins de vie, tout ça. Mais il faut toujours être proche des patients, savoir les écouter, être empathique, hein. Mais faire attention à se protéger aussi et se protéger soi-même des choses que peuvent ressentir les gens et faire attention à pas faire de transfert sur sa propre vie, tout ça .
D'accord. Rien à voir, on va passer juste sur une autre question, mais qui est tout aussi importante, c'est les enjeux liés à l'évolution des nouvelles technologies. C'est quelque chose qui nous touche beaucoup. Et justement, la question, ça serait de connaître comment ça se passe la digitalisation dans le système de santé. Et vous, pour les infirmières, comment ça se dénote au quotidien ?
Et depuis quelques années, du coup, maintenant, on est passé aux dossiers médicaux numériques. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on fait tout avec un ordinateur. On a tout le dossier du patient via un ordinateur, toutes les prescriptions médicales. C'est un gain de temps, hein, parce qu'au moins, si on a besoin de chercher quelque chose, c'est très rapide, on sait où le chercher. Et puis, du coup, dans les services, enfin pour les personnes qui n'ont jamais été hospitalisées et bien, bravo. Nos ordis, en fait, ils sont sur des espèces de petits chariots et comme ça nous permet de pouvoir aller de chambre en chambre avec nos ordinateurs et de ne pas perdre de temps et de perdre d'informations aussi à écrire puis à retranscrire sur le logiciel. Donc au moins, ça nous permet de faire tout et d'assurer, au lit du patient et de nous assurer une continuité dans la traçabilité aussi des actes.
Ok. Et... on va revenir un peu plus, là c'était un peu plus parenthèse digitale, nouvelle technologie. Là, on va revenir sur justement cette pénurie d'infirmières un peu plus de manière profonde. On l'a parlé des conséquences, charge de travail, le fait d'avoir des horaires beaucoup plus intenses. Et je voulais savoir du coup les conséquences vis-à-vis de toi, l'humain, comment tu le perçois. Et aussi, d'un autre côté, les compétences que tu devrais... que tu dois acquérir à cause de cette, à cause de ce besoin-là.
Je pense qu'il faut savoir aussi faire la part des choses et savoir prendre du temps pour soi sur les moments où ça va pas trop en stage. Enfin, moi, du coup, c'est pour les stages, je suis pas encore diplômée, mais les moments où c'est compliqué dans les services, il faut aussi savoir quand on rentre chez soi. C'est dur de le faire tout le temps, hein, mais essayer de couper, penser à autre chose. Moi, je sais que le sport, ça me permet un peu de décompresser là-dessus. Et puis, il faut vachement en parler. Les équipes, souvent, sont très bienveillantes là-dessus. Quand il y a des situations difficiles, on en parle tous ensemble. On verbalise ce qui vient de se passer. Et aussi, moi, je sais que j'en parle pas mal avec mes copines qui sont étudiantes aussi, de nos journées, de ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Ça permet de relâcher un peu et de faire abstraction. Après, c'est vrai qu'il y a des contraintes pour ce métier, les horaires décalés, la charge émotionnelle, la pression aussi, parce que il faut savoir réagir rapidement en fonction de ce qui peut se passer. Mais après, c'est un beau métier et il faut faire preuve d'adaptabilité, savoir se préparer à toute éventualité. Enfin, on peut Enfin, il faut se préparer à tout.
Ok, très bien. Maintenant, pour se faire juste une idée, je pense pour les gens qui nous écoutent, concrète, de la pénurie d'infirmières qu'il y a, si tu peux nous donner un ordre d'idée de nombre dans lequel d'infirmières vous êtes dans le service et du besoin qu'il faudrait pour être optimal, ou si tu n'as pas au niveau d'un service, au niveau d'un patient, je ne sais pas s'il faut une infirmière ou deux infirmières pour un patient, voilà, sur 24 heures, si on estime qu'il est hospitalisé sur 24 heures, comment tu penses ?
Après, tout dépend de l'état du patient et dans quel type de service il est hospitalisé, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que donc là, le stage où j'étais en neurochirurgie en soins intensifs, donc il y avait 15 lits, et elles étaient 3 à 4 infirmières par jour, enfin... la journée, donc plus une la nuit. Mais du coup, elles étaient une infirmière pour 5 patients à peu près, ce qui est très peu. Enfin, mais parce que c'était des patients qui nécessitaient des soins très rapprochés et des soins très techniques, donc il fallait être très présent pour eux. Mais à l'inverse, j'ai fait d'autres stages dans tout ce qui est l'EHPAD, la gériatrie. Bah, là, des fois, il y a une infirmière pour gérer les 50 résidents de l'EHPAD ou une infirmière pour moi, là... En service de rééducation, il y a 2 infirmières pour gérer les 50 lits. Donc, ça fait une infirmière pour 25 patients. C'est beaucoup. Donc, oui, il y a beaucoup de manque. Et puis, voilà, comme c'est un métier avec beaucoup de pression, beaucoup de charges émotionnelles, mine de rien, il y a beaucoup d'infirmières qui arrêtent, qui se mettent en arrêt. Et donc, des fois, on ne trouve pas de remplaçante. Et donc, en fait, c'est les autres infirmières du service qui font, qui rajoutent des jours. Et donc, en fait, c'est un cercle infini parce que du coup, on tire sur la corde de celle qui reste. Et voilà.
Et si on se pose la question du point de vue de la formation, comment elle s'adapte à ces besoins-là ? Je ne sais pas, au niveau des concours, je ne sais pas s'il y a un concours, s'il y a du recrutement, etc., comment ça se passe et comment ils font aussi, parce que en confrontant avec les compétences que tu as dites auparavant, qu'il faut faire preuve d'adaptivité, gérer la pression, ce genre de choses, est-ce que c'est mis en valeur dans la formation ?
Moi, je pense que pour que ça fonctionne mieux, il faudrait déjà que les... Parce que du coup, on est en stage presque la moitié de l'année. Et des fois, on a l'impression de déranger un petit peu les infirmiers, tout ça. Après, c'est aussi, vu la charge qu'ils ont dans leur service, des fois, ils ne sont pas forcément bienveillants et très, très à même de nous apprendre des choses. Donc, je pense qu'il faudrait que le tutorat des infirmiers qui, après, tutorent les étudiants soit un peu plus poussé, leur apprendre comment on prépare un étudiant, qu'est-ce qu'on lui donne comme information, comment on l'encadre pour que il se sente à l'aise et après ça devienne un futur collègue. Non, il n'y a pas de concours pour réussir, c'est des partiels et un mémoire à la fin de l'année. Mais oui, je pense que l'encadrement en stage est à mettre en avant. Après, je sais que à Rennes, en tout cas, je prends cet exemple-là parce que c'est là où je suis, ils proposent de financer la dernière année d'études, mais pour après recruter, enfin pour que ces personnes-là après restent, je crois que c'est 3 ou 5 ans pour travailler pour l'hôpital. Donc ça permet comme ça de garder certains étudiants sur l'hôpital. Voilà, ils essayent de mettre des choses en place. Ils ont fait là le 1er mars un espèce de job dating pour pouvoir travailler, pour pouvoir rencontrer des cadres de santé qui ont des besoins dans leur service pour l'été aussi, pour les remplacements pour l'été, pour que les professionnels puissent prendre des vacances aussi l'été. Donc voilà, ils essayent de mettre des choses en place.
D'accord. Donc du coup, en fait, même quand tu es en stage, tu es un peu livré à toi-même sur la théorie et faut pas trop que je dérange l'infirmière qui, effectivement, comme tu as pu le dire, a notamment 25 patients à gérer en même temps, quoi. Donc c'est une dualité complexe.
Oui, c'est ça. Après, je sais que ils ont beaucoup de travail, mais des fois, juste repenser à eux quand ils étaient étudiants et à commencer à se redire « moi, j'aimais pas tel professionnel qui me laissait dans un coin, ou je le suivais juste, qui me laissait rien faire. » Voilà, s'ils veulent qu'on puisse après être plus nombreux et qu'on puisse prendre leur relève aussi, il faut nous former correctement et donc nous apprendre les choses.
Tu l'as parlé, donc ces nombreuses contraintes qui pouvaient, pas dégénérer, mais qui découlent du stress, de la charge émotionnelle, etc., que toi, tu pouvais gérer notamment avec le sport. Est-ce que des fois, si tu nous donnes des exemples, tu as eu des trop gros coups de mou, que ça t'a dû trouver des alternatives au sport ? Comment tu fais au global pour gérer ça ? Entre guillemets, les conditions vie perso, vie pro, comment tu gères ça ?
Bah, je sais que c'est compliqué ce que je disais, il faut essayer de se faire un peu une petite carapace et se dire quand ma journée de travail est terminée, je suis plus à l'hôpital, je pense. Mais dans la réalité, c'est dur. Enfin, voilà, moi j'ai des patients jeunes qui sont décédés et bah, ça m'a affectée. Et donc, la nuit, voilà, moi j'ai travaillé beaucoup de nuit en neurochirurgie et donc, en fait, je travaillais du coup de 7h, enfin de 19h à 7h le lendemain matin. Et en fait, c'était impossible pour moi de me coucher à 7h quand je rentrais chez moi. Enfin, j'arrivais pas à m'endormir tout de suite. Je repensais à toute ma nuit, à ce qui s'était passé, à qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux. Donc voilà, moi, je pense qu'il faut essayer de trouver un équilibre. Ce que je disais, moi, le sport, voilà, aller faire d'autres choses, ça me permet de plus trop y penser. Voilà, papoter avec des copines aussi qui sont dans le milieu, qui ont vécu des fois des cas similaires ou des choses un peu pareilles, qu'elles me donnent leurs petits tips aussi pour pouvoir affronter cela. Voilà, ça me permet de réussir à jongler entre les deux.
Donc, communiquer, c'est hyper important, quoi. Pas laisser trotter dans sa tête. OK. Moi, j'avais une question qui est primordiale. En fait, c'est un peu le tour de ce qu'on dit depuis le début. C'est quels sont les aspects de la profession qui devraient être valorisés ? Et en fait, en écrivant cette question, je me suis dit pourquoi ce métier devrait être valoriser finalement, parce qu'elle a tellement, on l'a vu dans ta journée type, tout ce que tu pouvais faire, etc. C'est quand même un job qui est important à l'hôpital. Pourquoi on a cette vision-là ? Pourquoi on a cette image-là de l'infirmerie
qui
devrait être valorisée ?
Parce que je pense que dans la tête de beaucoup de personnes encore, l'infirmière reste le petit bras du médecin qui donne les médicaments que le médecin a dit qu'il fallait donner. Alors que non, en fait, l'infirmière, elle réfléchit aussi. Elle peut faire des choses sans avoir l'aval du médecin. Elle peut pratiquer des choses grâce à son raisonnement clinique, de faire avancer de ne pas être obligée d'attendre le médecin pour pouvoir faire des choses. Elle a des compétences, elle a du raisonnement. Et puis, si on compare les salaires, une infirmière et un médecin, c'est totalement l'opposé, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on se dit que c'est un métier qui devrait être revalorisé, du fait des horaires décalés, de la pression, de tout ce que j'ai dit depuis le début, la charge mentale, la charge émotionnelle, mais aussi d'un point de vue salarial. C'est un métier qui, quand même, est pour les heures qui sont faites et pas très bien rémunéré. Nous, en tant qu'étudiants, par exemple, on est rémunéré. Un peu plus d'un euro de l'heure. C'est très peu. Et on, quand il y a des heures sup à faire, on ne les compte pas. On ne le dit pas forcément. Parce qu'on ne va pas dire en plein milieu du rush, moi c'est l'heure, j'y vais. Enfin, je trouve ça maladroit de le faire. Moi je sais que je ne le fais pas du tout.
Et finalement, peut-être que certains vont se dire, mais vous êtes en stage, vous êtes encore en formation, mais il y a des actes que vous faites déjà dès la première année qui sont des actes que les infirmières font au quotidien. Tu peux peut-être les dire.
C'est ça, tout ce qui est prise de sang, perfusion, on apprend ça dès la première année. Donc, moi, en deuxième année, on apprend encore plus de choses, les transfusions, les choses comme ça. Moi, c'est des actes que je pouvais faire. Et donc, quand je voyais que c'était le rush, je me sentais à l'aise de le dire, si tu veux, là, c'est un peu... Enfin, en neurochirurgie, j'ai eu ce sentiment-là, de dire, si tu veux, c'est un peu la course, je peux aller te faire la prise de sang dans telle chambre. Et oui, ça m'a pris 10 minutes de plus, 10 minutes de rap, tout ça, mais je ne me voyais pas laisser mon collègue se débrouiller et finir de faire... faire 3 heures alors que moi, de plus, alors que moi, j'aurais pu prendre le temps de faire 2 prises de sang et ça lui aurait fait gagner un gain de temps.
Et justement, comment tu pourrais améliorer l'image du métier et susciter des vocations, là, à ton niveau, sur ce podcast ? Je te donne le temps.
Après, je pense que c'est pas un... Enfin, on ne peut pas susciter des vocations, soit c'est... Enfin, les vocations, c'est inné. Moi, je sais que c'est toujours un métier que j'ai voulu faire parce que j'ai toujours voulu aider comme je pouvais à mon échelle les gens. Donc d'abord, en me disant que je voulais faire médecine. Après, voilà, moi, j'avais cette image que l'infirmière, c'était vraiment... elle obéissait, entre guillemets, au médecin. Mais non, enfin voilà, c'est un métier quand même qui est très réflexif. Nos cours, on nous apprend à voir les signes cliniques des maladies, les traitements après qu'on met en place. Enfin voilà, on sait ce qu'on fait. C'est pas, on n'applique pas seulement les consignes du médecin qui a fait 10 ans d'études. Donc pour moi, on peut pas susciter de vocation. C'est soit on aime, soit on n'aime pas. Après, c'est un métier voilà où il y a quelques contraintes, mais d'un côté, c'est un métier hyper beau. On est auprès des patients. On les voit guérir parfois, on voit les avancées de jour en jour, l'évolution des patients de jour en jour. Et parfois, voilà, de l'autre côté, du coup, vers la fin de vie, mais on les accompagne au mieux. Et ça fait aussi partie de notre métier d'accompagner les personnes sur leur fin de vie et d'être présent et de tout faire pour que ça se passe au mieux.
Et si, par exemple, tu avais en face de toi un lycéen, une lycéenne qui s'intéresse globalement au secteur de la santé et plus précisément au métier d'infirmier, infirmière, qu'est-ce que tu lui dirais, notamment dans les cours, quoi prendre peut-être comme option ou spécialité, mais en dehors des cours aussi, pour développer les compétences que tu as dites, se renseigner sur peut-être la formation scientifique, je ne sais pas, qu'est-ce que tu lui dirais?
Eh ben, c'est plutôt un métier scientifique, donc moi je privilégierais quand même les spécialités scientifiques type SVT, quand même sur la santé. Physique, maths, ça peut servir. Après voilà, c'est un métier quand même où on apprend beaucoup en cours, et donc je suis pas sûre qu'il y ait de spécialité type qu'il faut avoir pour rentrer en études d'infirmière. Après voilà, c'est un métier qui est important de s'investir, donc si ils peuvent s'investir d'un autre côté, de se rendre compte de ce que c'est de prendre du temps pour les gens, de faire des choses, mais... Et voilà, parce qu'ils compteront pas leurs heures, donc s'investir dans des associations, dans tout ce qu'ils veulent, parce que voilà, c'est un métier qui prend beaucoup de temps. Après, j'espère ne pas avoir dégoûté en énonçant les contraintes qu'il pouvait y avoir, mais voilà, c'est un beau métier, et comme je disais, voilà, c'est un métier où on accompagne les gens au mieux.
On a parlé effectivement des contraintes, et c'est normal parce que c'est lié à un vrai besoin sur le territoire. Et par exemple, si on imagine, je te redonne la baguette magique et tu es un décisionnaire, un ministre, une ministre, et que tu as envie de mettre en place, rajouter des infirmières, etc. Quel dispositif peut-être tu pourrais mettre en place?
Je pense qu'il faut de l'argent dans le milieu de la santé en général. Parce que c'est pas normal qu'on fasse la queue pendant des heures et des heures aux urgences pour avant de voir un médecin. C'est pas normal que les gens soient entassés dans des couloirs parce que manque de lits. Donc voilà, agrandir les hôpitaux parce que la population aussi, l'âge de vie recule. Donc la population vieillit. Donc quand on vieillit, on a besoin de plus, on a plus besoin de présence médicale. Donc voilà, augmenter la taille des hôpitaux, augmenter le nombre d'infirmières, augmenter le nombre de médecins aussi, c'est quelque chose d'important. Moi, voilà, j'ai fait une première année de médecine, donc je me suis rendu compte de ce que c'était que la première année avec le numerus clausus, tout ça. Augmenter le recrutement des médecins, parce que là, on en vient à recruter aussi des médecins à l'étranger, mais ils n'ont pas reçu les mêmes formations qu'en France. Ils ne parlent parfois pas la langue. Et donc, en fait, ça rajoute des contraintes en plus déjà au milieu qui est, au secteur qui est déjà bien tendu. Donc voilà, pour moi, le manque de personnel, si j'étais ministre, il y aurait beaucoup plus de personnel. On accepterait beaucoup plus, les passerelles, les choses comme ça entre les études seraient beaucoup plus simples. Et voilà, augmenter la taille des hôpitaux, parce que pour moi, c'est pas normal de la condition dans laquelle sont les gens à l'hôpital, mais malheureusement, nous, à notre échelle, on n'y peut rien.
Et ça, tu l'as bien dit, le manque de personnel, le manque de médecins sur les territoires, etc., ça m'a fait penser directement, évidemment, aux déserts médicaux. Qu'est-ce que t'en penses et à quelle échelle ça peut impacter, ton métier et l'évolution de ton métier plus tard?
Moi, j'avoue, nous, en Bretagne, on est quand même bien lotis en termes de médecins. On n'a pas forcément de déserts médicaux. Mais oui, c'est une problématique quand il faut faire je ne sais pas combien de kilomètres pour trouver un médecin, pour aller dans un hôpital. C'est pour ça aussi qu'ils ont développé de plus en plus d'hélicos. À Rennes, on est doté d'un hélico pour le SMUR. C'est pour pouvoir aller aussi dans les zones bien plus reculées des hôpitaux. ça reste le même problème. Il n'y a pas assez de professionnels. Et donc, s'il y avait plus de professionnels, bah, peut-être qu'ils s'installeraient aussi dans les zones plus pauvres en médecins. Parce que bah, ils seraient trop et ils n'auraient pas assez de patients dans les grandes villes. Là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ils sont tous... Enfin, tout le monde est overbooké, on va dire. Donc, voilà. Moi, je pense que le problème de fond est le manque de personnel.
Ça marche. Pour finir, bah, du coup, tu as parlé de tes expériences de stage à l'hôpital, notamment, aussi à l'EHPAD, avec une libérale, etc. Dans toutes ces expériences, lesquelles t'ont marqué et dans quel service ?
Bah, moi, je pense que le stage qui m'a le plus marqué, voilà, c'était le dernier, là, en soins intensifs de neurochirurgie, parce que c'était un service où il fallait s'attendre à... Enfin, les journées étaient tellement chargées, bah, ou parfois calmes. On a eu quelques après-midi qui étaient calmes. Mais c'était un service qui bougeait. En 5 minutes, tout pouvait se passer. Enfin, voilà. Et moi, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Enfin, voilà, j'ai du mal avec les journées qui sont très ritualisées. Donc voilà, j'ai bien aimé aussi tout ce qui était EHPAD, tout ça. Mais c'est beaucoup plus ritualisé. On arrive, on fait les médicaments. Ensuite, on va faire les pansements. Enfin, c'est beaucoup plus ritualisé. Et moi, j'aime beaucoup le changement. Donc... aller dans un service comme ça de soins intensifs où les patients, je ne sais pas combien c'est la durée dans laquelle ils restent dans le service, mais les patients, ils restaient 5 jours maximum. Donc, c'est des services vraiment où il y avait beaucoup de renouveau, donc de nouveaux patients, de nouvelles pathologies, de nouveaux actes à faire parce que chaque patient est différent. Mais voilà, je pense que le service qui m'a le plus plu aussi et dans lequel je me vois le plus travailler, voilà, et qui m'a confortée dans l'idée que voilà, moi, ce qui me ferait plaisir, c'est tout ce qui est urgence, réanimation, soins intensifs, tout ça, bah, c'est ce stage-là aux soins intensifs.
Ok, ça marche. C'est quoi la suite pour toi ? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Mila ?
Et bah, de réussir, de finir mes études et puis voilà, d'être acceptée, de trouver... un poste dans une unité qui me fait vibrer.
Très bien. Eh ben, on te le souhaite. Merci beaucoup, Mila.
Merci.
C'était super intéressant. On ne parle pas souvent des infirmières. On parle surtout voilà, des médecins, des nombreuses spécialités, des réformes liées aux médecins. Et on ne parle jamais des infirmières. Donc, c'était super de t'avoir aujourd'hui. J'espère que ça a plu à nos auditeurs. Et d'ailleurs, merci de nous avoir écoutés. Si vous voulez nous mettre un commentaire, dire ce que vous avez pensé, échanger avec Mila directement, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast parce que plein d'interviews de nos jeunes arrivent très vite. À plus.